Eh bien, j'aimerais, en guise d'introduction, citer notre cher pape Jean-Paul II. Je le cite dans la troisième encyclique qu'il a écrite. Voilà ce qu'écrit le pape au numéro 65 de son encyclique sur l'Esprit-Saint. « La manière la plus simple et la plus commune dont l'Esprit-Saint, le souffle de la vie divine, s'exprime et entre dans l'expérience, c'est la prière. » Avec ça, tout est dit. Parce que j'aimerais donc justement essayer avec vous de mieux comprendre, de mieux saisir la façon dont l'Esprit-Saint s'y prend avec nous pour nous faire entrer en prière. Ça ne sera pas à proprement parler une véritable conférence bien structurée, tout ce que vous voulez, les Français me pardonneront. Mais ce sera plutôt des considérations nées de l'expérience vérifiée dans l'Écriture sainte, puisque je pense que c'est là notre grande référence. Je vous propose, si vous voulez, de faire ce petit parcours en trois étapes, donc rien d'original. Le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est le fait que la prière est un combat. Je crois que si j'utilise ce mot, vous saisissez toujours tout de suite intuitivement ce dont je parle, mais j'aimerais davantage l'approfondir. Ensuite, j'aimerais voir comment c'est vraiment le rôle propre de l'Esprit-Saint de nous introduire dans une prière chrétienne. J'insiste, prière réellement chrétienne. Je développerai ce que je veux dire par là. Et enfin, je me propose d'aborder... Et ça, c'est à la fois mon expérience, la vôtre, mais c'est aussi l'expérience des personnes qui viennent d'une double difficulté que nous rencontrons tous dans la prière, la tentation de l'abandon, ou bien même plus grave, peut-être moins fréquente, mais plus profonde, la désespérance. Voilà donc vers quoi nous partons. Alors, je le disais, La prière, c'est d'abord, je crois, un combat, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, saint Paul nous le dit déjà dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, versets 24 à 26. Il nous dit tout de go que nous ne savons pas prier comme il faut. Donc je crois que la première chose à entendre, c'est que la prière n'est pas quelque chose de naturel, mais de surnaturel. Et la prière n'est pas quelque chose d'immédiat, mais c'est véritablement un combat. Un combat que je vois se cristalliser sur trois aspects de notre propre expérience. Un combat contre ce que j'appellerais la dispersion. Nous sommes des êtres dispersés, désunifiés, si je peux me permettre ce néologisme. Un combat contre la paresse. Et un combat contre notre état natif de rébellion, en tant que nous sommes tous des pécheurs. Combat contre la dispersion. Je crois que, j'ai pas besoin de vous le décrire longuement, si chacun, chacune d'entre vous repasse mentalement, rapidement sa journée dans sa tête, il peut constater facilement à quel point il est passé d'une activité à l'autre, de plus en plus vite peut-être, toujours plus. Mais surtout, à quel point il a été finalement affronté à cette tentation permanente de se laisser fragmenter par ses diverses activités et par un rythme souvent très endiablé, c'est le cas de le dire. Alors, le rôle certainement de l'Esprit-Saint ici, c'est d'unifier notre vie. Face à cette dispersion latente qui est une tentation permanente, quand je dis une tentation permanente, elle est dans l'air. Nous vivons dans une société où les gens sont, j'allais dire, naturellement dispersés par la fragmentation continuelle du déroulement même de leur vie. Et je crois que, c'est pas utile d'insister longuement, c'est un phénomène qu'on voit qui s'accélère. Et puis, il y a... Alors ça, j'allais dire, c'est quelque chose que nous subissons, nous sommes dans un cadre qui est ainsi, et nous sommes présents dans ce cas, donc nous en recevons quelque chose. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui vient de notre part à nous, qui est ce que j'appellerais, par contraire à la présence, notre absence. Là encore, je fais référence à notre propre expérience. Combien de fois nous ne sommes pas présents à ce que nous vivons? Combien de fois nous ne sommes pas tout entiers à ce que nous faisons? Soit nous sommes encore à l'activité précédente. Ouh là là, ça j'ai raté, il faudra que je fasse attention la prochaine fois, je sais pas quoi, bon. Ah, puis après il y a ça. Donc, ou alors nous nous projetons dans le futur, mais même au cours des rencontres qu'on peut vivre. Hein, réfléchissez bien à ça. Combien de fois nous ne sommes pas présents de tout notre être à ce qui nous est offert dans le moment où nous sommes. Donc il y a chez nous cette tendance continuelle à nous évader. Et en fait, c'est une évasion de la réalité. C'est une fuite de la réalité. C'est une forme de fuite de la réalité. Nous n'assumons pas le présent tel qu'il se présente à nous. Et là encore, c'est un fruit de l'esprit que de nous renvoyer continuellement à la réalité. Parce que la réalité est le seul lieu où je peux véritablement rencontrer le Christ. Hein, vous connaissez ce très beau chant que Sainte Thérèse a écrit, Sainte Thérèse de Lisieux a écrit, hein, « Je n'ai que le présent pour t'aimer ». Ça a été mis en musique de manière magnifique. Hein, « Je n'ai que le présent pour t'aimer ». Eh bien, combien de fois nous avons déserté notre présent? Donc, nous ne pouvons pas non plus être dans l'amour. C'est l'esprit qui nous ramène vers ce présent. Voilà, si vous voulez, pour ces deux aspects de ce que j'appelle la dispersion de notre être. Le deuxième volet que je proposais, c'est de voir que nous sommes des paresseux. Je crois qu'il faut l'avouer clairement. Nous sommes des paresseux. Parce que se mettre en prière, c'est fastidieux, c'est pas immédiat, ça fait grincer la nature, hein, c'est pas immédiat. Hein. Et donc, bien souvent, nous repoussons, enfin nous... Vous savez bien, j'ai pas besoin de détailler. Nous repoussons, nous retardons, demain, etc. Bon, à un autre moment, quand ce sera plus favorable, enfin, tout ce que vous voulez, hein. Quand ça ira bien, quand ça ira mieux, enfin, bref. Bon. Donc, nous sommes des paresseux, hein. Nous sommes des paresseux, et là aussi, par cette paresse, nous ratons véritablement des rendez-vous, hein, que le Christ nous fixe, hein. Et ces derniers temps, nous lisons dans la liturgie chaque jour, vous avez remarqué, un texte donc qui est celui qui raconte l'histoire de l'Église primitive, les Actes des Apôtres. Eh bien, j'étais frappé il y a quelques jours d'entendre un texte que j'ai tant de fois entendu, mais qui prenait tout à coup une résonance spéciale en repensant à ce dont je vous parlerai ce soir. C'est ce texte que vous connaissez tous. Il persévérait dans la prière. C'est au début des Actes des Apôtres. Il persévérait. C'est quand même intéressant parce que la persévérance dans la prière, elle est mise comme un fruit direct de cet événement qui a bouleversé l'Église naissante, qui s'appelle la Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint. Donc nous sentons très bien que cette persévérance dans la prière, qui nous est décrite dans l'Église primitive, et qui n'est pas faite seulement pour l'Église primitive, c'est le fruit d'une action de l'Esprit-Saint lui-même. Que je mettrais volontiers, contre la paresse précisément, en relation avec le don de force. Il faut de la force pour prier. Il faut de la force. De la force, j'entends, spirituelle. Hein. Voilà, donc nous voyons une nouvelle fois la place de l'Esprit-Saint pour corriger ce qui, en nous, est la pente naturelle de la paresse. Le dernier aspect sur lequel je veux parler, c'est celui de ce que j'ai appelé notre état de rébellion. Nous sommes tous, par notre naissance même, marqués par le péché. Le péché, n'oublions pas, la définition la plus simple du péché, c'est état de séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire qu'il ne nous est pas naturel d'établir le contact avec Dieu. Et j'allais dire, c'est même impossible si Dieu ne prend pas les devants. Donc, parce que nous sommes même, en tant que pécheurs, déjà, j'allais dire, nous sommes pas prédisposés à la prière. Je vais bien plus loin, parce que c'est dire les choses gentiment que parler de cette manière. Nous fuyons nous fuyons. Je vous renvoie au livre de la Genèse. Ce récit qui est un récit qui me parle moi de plus en plus et que je ne peux plus supporter d'entendre qualifié de naïf, c'est le récit de la chute d'Adam et Ève. En effet, on a là un récit extrêmement simple. Si vous prenez les termes qui sont utilisés, ils sont d'une banalité enfantine. Mais il y a une profondeur dans ce texte, entre autres, pour nous montrer là où, l'anomalie foncière qui s'est introduite dans le cœur d'Adam et Ève à partir du moment où ils se sont détournés de Dieu. Vous connaissez cet épisode, je n'y reviens pas, le fait n'est pas d'avoir mangé un fruit qui s'appelait pomme ou je ne sais pas quoi, le mot n'apparaît pas dans la Bible, le fait porte sur une désobéissance. Car Dieu pose la question, mais est-ce que donc vous auriez mangé du fruit dont je ne vous avais dit de pas manger ? Et la défense d'Adam, la défense pitoyable d'Adam, c'est de se cacher. Et quand Dieu va lui dire, mais Adam, où es-tu ? Quelle est la réponse ? J'ai eu peur et je me suis caché. Eh bien, à force de méditer ce texte, il m'apparaît que c'est vraiment cela qui habite notre cœur. Cette peur de la présence de Dieu. Cette peur de le rencontrer. Pourquoi ? Je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, mais parce que, à partir de la chute, Adam, Ève, chacune de nous, regarde, consciemment ou non, et ça va être précisément tout le chemin de la conversion que de transformer ce regard, qui transforme aussi le cœur, l'essence de ce que nous sommes. Adam ne peut pas s'empêcher, après la chute, de regarder Dieu comme un concurrent. Et un concurrent, que voulez-vous, on ne l'aime pas, on s'en méfie. Et voilà. Et voilà comment le poison est entré dans le cœur d'Adam. Et voilà comment Adam se trouve, même si ça fait peut-être pas beaucoup de bruit, mais dans le secret de son cœur, c'est la réalité, se trouve dans un état de ce que j'appelle un état de rébellion. Et donc, il est mal à l'aise à chaque fois qu'il va rencontrer Dieu. Il n'est pas à l'aise. Et là aussi, c'est un don vraiment de l'esprit, un don qu'il faut demander, qui est le don de piété. C'est-à-dire un don qui nous rend, si vous voulez, le courage, un courage surnaturel, d'aller à la rencontre de celui qui vient vers nous et qui s'appelle Dieu. Qui s'appelle même plus précisément, parce que c'est pas suffisant de dire Dieu, le Père. Voilà. Alors, voilà, si vous voulez, En abordant cette notion, si vous voulez, de la prière comme un combat, au fond, je me suis tout simplement réduit à faire une sorte d'état des lieux de la situation dans laquelle nous nous trouvons tous. Et que Saint Paul donc décrit si bien quand il dit que nous ne savons pas prier. J'ai envie de paraphraser en disant nous n'avons pas envie de prier. Alors voilà, et on a vu qu'à chaque fois, l'Esprit Saint nous apporte un remède bien précis. Alors, cela me permet d'aborder, si vous voulez, ce deuxième point que j'ai annoncé. Comment l'Esprit Saint nous introduit dans une prière que j'appelle réellement chrétienne. Vous savez, il y a un mot à la mode, que vous utilisez peut-être, que beaucoup de monde utilise, mais qui est un mot absolument piégé. J'ai mis du temps pour me rendre compte, mais c'est clair que c'est piégé. Beaucoup de gens vous disent, oui, moi je suis peut-être pas très croyant, mais en tout cas, je médite. Je médite. Le mot magique, c'est la méditation. Combien de fois je rencontre des personnes, et ça me fait mal quand je sais que ce sont des chrétiens, des baptisés, qui me parlent de méditation. Très bien. Alors mon oreille se pointe tout de suite parce que je leur demande immédiatement, parlez-moi de ce qu'est votre méditation. Et c'est là que je découvre que la méditation dont ils me parlent n'a strictement rien à voir avec la prière chrétienne. Et c'est là le drame. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, il s'agit d'une démarche absolument païenne. C'est d'autant plus tragique qu'on a affaire à des baptisés. Et là, l'Esprit Saint a un rôle tout à fait particulier pour nous remettre sur la voie d'une prière qui soit authentiquement chrétienne. C'est-à-dire, d'abord, dans une dimension trinitaire. Là encore, c'est saint Paul qui vient à notre aide pour mettre les points sur les i, lorsqu'il nous dit, toujours dans la même lettre aux Romains, chapitre 8, verset 15, que c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous fait crier « Abba, Père ». Voilà. Et ailleurs, Paul insiste pour dire que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Vous voyez, parallèle avec Genèse 2 que tout à l'heure j'ai cité. J'ai eu peur et je me suis caché. Paul nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de fils. Donc tu es fils, donc Dieu est ton père. La première, si vous voulez, le premier mouvement que fait naître en nous l'Esprit Saint, c'est de nous faire reconnaître Dieu comme Père. Romains 8, 15, vous pourriez prendre en parallèle la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 7. Ce même esprit, bien entendu, est celui qui nous fait reconnaître le Christ. Mais là encore, vous savez combien, malheureusement, une certaine vision du Nouvel Âge s'est emparée du terme Christ pour le remplir d'un contenu tout à fait différent de celui que nous propose la Bible et l'Église. Il s'agit donc de Jésus comme Seigneur. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. « Sans l'Esprit Saint, nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur ».» Seigneur, peut-être que pour nous c'est un terme un peu étrange, quoique nous le rencontrions très souvent dans la liturgie, mais pour un juif ça voulait dire quelque chose de bien précis. Ce terme de Seigneur ne pouvait être appliqué qu'à Dieu. Dire que Jésus est le Seigneur, c'est dire qu'il est Dieu. En tant que deuxième personne de la Trinité, il est Dieu. Donc nous voyons que l'Esprit Saint, et c'est quelque chose qui est magnifique, je n'aurai pas le temps de le développer, mais qui toujours me fascine littéralement, l'Esprit, c'est vraiment, comme le père Durvel l'a dit dans un très beau livre, c'est vraiment la personne de l'humilité. C'est celui qui s'efface devant le Père et devant le Fils, pour nous les révéler. Autrement dit, c'est celui qui nous introduit dans la dimension réellement trinitaire, c'est-à-dire chrétienne, de la prière. Je vous renvoie, vous connaissez bien ces textes, à l'Apocalypse, l'un des tout derniers versets de la Bible. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et le fameux « Maranatha »« Viens, Esprit Saint ». Donc, il est à la fois... cet esprit, c'est quelque chose de très mystérieux que nous n'avons jamais fini de découvrir. C'est que c'est cet esprit, comme Paul aussi nous dit dans la même lettre aux Romains chapitre 8, dans les versets que j'ai cités, c'est cet esprit qui prie en nous, parce qu'il lui connaît le désir de Dieu en nous. D'une certaine manière, et c'est extraordinaire, c'est celui qui s'appelle lui-même en nous. Nous sommes, et Paul insiste, nous sommes les temples de l'Esprit. L'Esprit habite en nous et s'appelle lui-même. Donc, on est mis, si vous voulez, devant cette espèce de paradoxe, mais qui est un paradoxe vraiment typiquement évangélique, qui dépasse absolument la logique rationnelle à laquelle nous sommes habitués. C'est que, à la fois, nous ne pouvons pas prier sans que l'Esprit soit déjà présent, mais en même temps, nous avons besoin de continuellement l'appeler. Nous ne pouvons pas faire des réserves d'Esprit Saint. C'est impossible. L'Esprit Saint est celui, alors voilà, l'Esprit Saint est bien celui qui est donné pour le présent, pour le moment présent. C'est pourquoi j'ai sans cesse besoin de l'appeler. C'est tout à fait typique dans le cas de la Vierge Marie qui n'a pas échappé à cela. La Vierge Marie qui pourtant a été totalement investie de l'Esprit Saint au moment de l'Annonciation, eh bien c'est la même Vierge Marie qu'à la fin des évangiles, les actes des apôtres, nous voyons de nouveau au Cénacle avec les apôtres pour implorer l'Esprit Saint. On aurait pu se dire, mais ça y est, tu l'as reçu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends encore? Non. L'Esprit Saint est quelqu'un qui a toujours besoin de se donner dans le présent. C'est un petit peu, si vous voulez, comme pour la manne au désert, vous vous souvenez de cet épisode où Moïse, sur le commandement de Yahvé, avait dit, vous ne prendrez que la part pour le jour même. Parce que si vous prenez pour deux jours, eh bien le lendemain, ce que vous avez pris la veille, et bien sûr, il y a toujours des petits malins qui veulent faire des réserves, ça n'échappe pas. Et de fait, ils font des réserves, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien le lendemain, ce qu'ils ont pris de manne en trop, est totalement immangeable parce que les vers se sont mis dedans. Eh bien, pour moi, c'est vraiment l'image, dans l'Ancien Testament, de cette présence de l'Esprit pour le présent, précisément. Dans cet effacement total de cette personne divine qu'il est, et en cela, il est vraiment la personne de l'humilité, je vous renvoie, par exemple, à l'évangile de Jean. Je suis très frappé, et cela m'a beaucoup réjoui, dans le tout dernier, dans ce qu'on appelle le testament politique et spirituel de Jean-Paul II, le tout dernier livre qui a été publié, donc « Mémoire et identité », Jean-Paul II nous confie que cette encyclique sur l'Esprit-Saint, la troisième qu'il est écrite, qui forme un triptyque sur la Trinité, la première était Jésus, rédempteur de l'homme, la deuxième sur le Père, dives in misericordia, Dieu riche en miséricorde, la troisième. Alors il a dit, les deux premières, je les avais déjà apportées dans mes cartons depuis Cracovie. Bon, donc il n'y avait rien de nouveau, il s'est contenté peut-être de reprendre un peu ses notes, de les mettre en ordre. Mais par contre, il a dit, il le dit clairement ici, que cette encyclique sur l'Esprit-Saint est née pour lui de la méditation de l'évangile de Jean. Alors, ça me parle beaucoup parce que quand j'ai commencé à préparer un petit peu ce que j'allais vous dire, j'ai été comme renvoyé presque automatiquement à Jean. Jean, en particulier, dans le long discours, après le lavement des pieds, donc qui est comme le testament du Christ. Eh bien, Jean, que je cite maintenant au chapitre 15, verset 6, dans une magnifique formule trinitaire, où il nous est dit que l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité qui procède du Père, c'est lui qui rendra témoignage de moi, le Fils. Donc Jésus annonce à ses apôtres qu'en effet, c'est par l'Esprit de vérité qui procède du Père, référence au Père, que le témoignage de lui, Jésus Christ, sera rendu devant les hommes. Donc voilà une magnifique formule trinitaire. Et cette humilité de l'Esprit-Saint qui a vraiment de quoi fasciner, je dois vous dire que pour moi, l'une des plus belles expériences de ma vie au monastère, c'est d'avoir découvert l'Esprit-Saint. C'est d'avoir découvert que l'Esprit-Saint n'est pas quelque chose, n'est pas un truc comme ça entre le Père et le Fils qu'on ne sait pas trop mettre, on ne sait pas trop comment placer, mais c'est quelqu'un. Alors vous allez me dire, c'est une évidence que je vous dis là. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence, mais qui a besoin de s'incarner dans notre cœur, dans notre prière. Pour comprendre que si c'est quelqu'un, c'est donc une personne qui veut entrer en relation avec moi. Voilà. Avec ça, j'allais dire, tout est dit. Et cette personne, c'est pas n'importe qui, c'est une personne divine. Et cette personne, elle est éblouissante par le fait de son effacement. Le Fils, il s'est montré, il est venu dans notre chair. On a pu, comme Saint Jean l'a dit, l'a écrit, on a pu le toucher, on a pu le voir, on a pu lui parler. Le Père, eh bien, ma foi, depuis l'Ancien Testament, on en parle, même déjà sous ce vocable de Père, et j'allais dire, par notre expérience humaine, même très très imparfaite, même très insuffisante, nous pouvons un peu nous représenter ce qu'est le Père. Par contre, l'Esprit Saint, c'est beaucoup plus difficile, parce que il est très difficile de se représenter à quoi ressemble un esprit. Si en plus c'est un esprit qui est Dieu, alors c'est encore plus difficile. Eh bien, j'allais dire, le mystère de l'Esprit Saint, il est là, à la fois dans ce que je pourrais appeler son hyper-présence, on a vu que sans lui, il n'y a pas possibilité même d'entrer dans la prière, et en même temps, cet extrême effacement. Et c'est pourquoi, dans le même évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, Jésus nous dit encore, il ne parlera pas de son propre chef. Voyez, l'Esprit-Saint n'est pas là pour se révéler lui-même, ou s'il se révèle, c'est en révélant les deux autres, le Père et le Fils. Et pour bien enfoncer le clou, Jean continue, « Il me glorifiera, car c'est de ce qui est à moi, Jésus le Christ, qu'il prendra pour vous l'annoncer. » Autrement dit, il ne donnera rien de lui-même, il ne fera que donner ce que le Christ est. Et ça, cela se réalise évidemment suprêmement à un moment de la vie de l'Église qui est celui de l'Eucharistie. À Hauterive, nous avons quelque chose de très beau, un usage qui malheureusement s'est perdu dans l'Église d'Occident, c'est la colombe eucharistique, c'est-à-dire au fond un tabernacle en forme de colombe. La colombe, évidemment, rappelant l'Esprit-Saint, parce qu'en effet, le pain ne peut devenir corps, vrai corps du Christ, le vin ne peut devenir vrai sang du Christ que dans la puissance de l'Esprit-Saint. Voilà. Voilà l'Esprit-Saint donnant, j'allais dire, prêtant toute sa puissance divine au Fils, mais c'est le Fils qui vient. C'est le Fils qui se donne. Hein? Là encore, totale présence de l'Esprit-Saint, et j'allais dire d'une certaine manière, totale absence aussi, total effacement dans la mesure où celui qui est là et que nous recevons, c'est le Fils. Cet Esprit, il est dit, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure en citant Jean 15, 26, il est dit Esprit de vérité. J'aimerais m'arrêter un petit instant sur cette expression. Parce que l'Esprit nous introduit dans la véritable prière parce qu'il est l'Esprit de vérité. L'Esprit qui nous oblige à entrer dans la vérité de ce que nous sommes, pour nous présenter devant Dieu dans la vérité de ce que nous sommes. Quelle est cette vérité? Elle est simple. Elle est simple à énoncer. Elle est beaucoup plus difficile à saisir et à comprendre. La vérité, c'est que nous sommes des pécheurs et que Dieu est miséricorde. Voilà la vérité tout entière. Jean 16, 13, il vous annoncera la vérité tout entière. Cet esprit de vérité, il est mentionné plusieurs fois sous cette forme. Si vous voulez aller regarder, vous le trouvez aussi en Jean 14, 17 ou en 15, 26. Il est donc l'esprit qui me révèle ce que je suis dans la vérité. Pas avec mes illusions, pas avec mes lunettes déformantes, pas avec mon amour propre, non, il me dit vraiment qui je suis. Et c'est pourquoi Jean, toujours lui, chapitre 16, verset 8, rapporte cette parole de Jésus si importante, « L'Esprit, quand il viendra, confondra le monde au sujet du péché. » L'une des missions, et j'allais dire chronologiquement peut-être la première, c'est de faire saisir à l'homme la vérité de ce qu'il est, à savoir un être blessé, un être qui est en rébellion contre Dieu, ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, je crois, et c'est une chose aussi que j'ai appris au monastère, alors il faut en parler avec beaucoup de prudence, mais nous devons, je dis bien nous devons, demander à l'Esprit-Saint de nous montrer notre péché. Non pas pour le plaisir de remuer la vase, hein, non pas par sens du morbide, absolument pas, mais pour pouvoir demander pardon de ce péché. Or, il y a beaucoup de péchés que nous portons en nous sans même en avoir la conscience. Nous faisons certainement tous cette expérience. Plus on s'approche de Dieu, plus notre conscience s'affine. Ce qui veut dire concrètement que quelque chose qui nous paraissait normal à un certain moment de notre vie, eh bien aujourd'hui ne nous paraît plus normal. Parce qu'on a pris conscience que dans ce que nous appelions normal et que le monde appelle si facilement normal, se dissimulait en réalité un péché. Il y a une phrase d'un psaume que j'aime beaucoup et qui décrit ce dont je parle, vous le trouvez au psaume 18, verset 13. Montre-moi mon péché caché. Montre-moi mon péché caché. Et tous, toutes, nous portons en nous un péché caché. Que nous ne pourrons jamais voir si l'Esprit ne vient pas nous aider à y voir clair. Je répète, il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais il s'agit de pouvoir amener à sa conscience pour ensuite entrer dans un vrai repentir, amener à sa conscience le péché, de manière à pouvoir en être purifié, parce qu'il n'y a pas d'autre façon. J'ai dit purification, et bien cela est le, si vous voulez, ce dont je parle en ce moment, la vérité tout entière, c'est comme une médaille à deux faces. Un, connaissance de mon péché. Deux, ce n'est pas supportable si l'esprit en même temps ne me montre pas que le pardon de Dieu est infini. Et là nous entrons dans le mystère de la miséricorde. Je faisais allusion au début de la messe. C'est quelque chose, vous le savez bien, qui a habité à un point fou le cœur du pape Jean-Paul II. Et c'est pas pour rien que sa deuxième encyclique est totalement consacrée à cette réalité. Je ne veux même pas dire un thème, parce qu'un thème, c'est une chose trop intellectuelle. Je dis cette réalité parce qu'il s'agit vraiment d'une réalité à expérimenter, à savoir à quel point notre Dieu, le Dieu des chrétiens, est un Dieu de miséricorde. Le Père des miséricordes, comme Paul le nomme lui-même. Et c'est tellement vrai que la liturgie reprend cela. En particulier, je pense à deux ou trois textes très forts. Vous savez sans doute que dans la liturgie latine, la liturgie de l'Église romaine, à laquelle nous appartenons tous, je crois, il y a très peu de prières qui s'adressent directement à l'Esprit-Saint. Il est très rare que dans une prière du rite romain, le nôtre, nous disions « Esprit-Saint, toi qui, ta 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 ». On mentionne l'Esprit-Saint, oui, mais à la troisième personne. Il est très rare qu'on lui dise « tu ». Eh bien, il y a une très belle oraison pour la vigile, c'est-à-dire la veille de la Pentecôte, dans laquelle l'Esprit-Saint est appelé « toi qui es toi-même le pardon ». Il faut saisir la force de cette formule. Il n'est pas dit « toi qui donnes le pardon », »,« toi qui ouvre le cœur de l'homme au pardon », non, « toi qui es toi-même le pardon ». Je veux dire, substantiellement, tu es le pardon. Eh bien, là encore, je cite Jean-Paul II, parce que c'est un texte tout à fait étonnant, et j'espère qu'un jour, les théologiens se pencheront sur ce texte, parce que pour l'instant, je n'ai pas lu grand-chose là-dessus. Mais dans sa même encyclique sur le Saint-Esprit, Jean-Paul II a une formule tout à fait étonnante lorsqu'il dit que, je cite textuellement, « dans l'Esprit-Saint, nous pouvons voir comme personnifiée la miséricorde. » L'Esprit-Saint, d'une certaine manière, comme personne de la miséricorde. Je n'ai jamais lu quelque chose de plus fort que cette expression-là, qui décrit parfaitement ce dont nous parlons. Jean, déjà, a ouvert la voie d'un Jean, c'est-à-dire Jésus, rapporté par Jean. Je cite Jean 15, 26 ou 14, 16, où l'Esprit-Saint est appelé l'intercesseur, l'avocat, hein, nous connaissons bien ces termes. L'avocat, c'est le défenseur, c'est celui qui prend la défense. Intercesseur, qui est aussi un mot qui est appliqué au Christ, mais là, dans ce contexte-là, appliqué à l'Esprit-Saint lui-même. J'avais dit que je ferais une mention du titre que Don Mauro avait prévu pour cette conférence ce soir et que je n'ai pas repris, mais je veux maintenant m'arrêter un instant sur cette expression très belle. Donc il avait dit l'Esprit-Saint et la prière, toujours respirer le Christ. Cette expression est tirée d'un texte fondateur de la vie monastique, puisque c'est tiré de la vie de saint Antoine le Grand, que toute la tradition monastique d'Orient comme d'Occident a toujours compris et regardé comme le précurseur des premiers moines. Et c'est dans les toutes dernières paroles que saint Antoine prononce cette parole comme une sorte de testament qu'il laisse à ses fils qui sont là, ses fils spirituels, toujours respirer le Christ. Semper Christum respirare. Eh bien voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. L'Esprit-Saint, et vous savez qu'il y a tout un grand courant dans la tradition orientale de prière, la fameuse prière de Jésus, c'est dans l'Esprit-Saint que je suis mis en relation avec mon Seigneur, avec le Christ, avec Jésus. au point que cela devient ma propre respiration. Vous savez que si quelqu'un cesse de respirer, il ne va pas survivre longtemps. C'est vraiment une question de vie et de mort. C'est pour nous une question de vie et de mort que de toujours respirer le Christ. Cela ne va pas sans difficulté, comme je l'ai dit, et j'arrive, si vous voulez, à ces deux grands obstacles que nous éprouvons tous, à peut-être ces deux tentations très courantes que nous éprouvons. La première, qui est celle donc de l'abandon, qui n'a pas traversé des longues périodes, plus ou moins longues, où il a dit, ma foi, maintenant, ça suffit, stand-by pour la prière, on verra plus tard, pour moult raisons. Et la deuxième grande tentation que je vois, même si peut-être ça n'apparaît pas aussi clairement que cela, de façon immédiate, mais on va voir, c'est la tentation de la désespérance, qui est en lien direct, qui a une implication immédiate sur la prière. D'où vient cette grande tentation de l'abandon à laquelle nous sommes tous soumis? Eh bien, très souvent, elle vient de cette impression que nous avons de ne pas être exaucés. Combien de fois j'entends des personnes me dire « Mais enfin, c'est pas possible, ça fait des jours, des semaines, des mois, des années que je prie pour ça et Dieu semble ne pas m'écouter. » Et souvent, il vous est arrivé certainement à vous aussi de rencontrer des personnes qui vous ont dit « Moi, la prière, je n'y crois plus parce que de toute façon, quand j'ai demandé quelque chose, il ne s'est rien passé. » C'est une véritable difficulté que nous connaissons tous. Que dire? La première chose que nous avons à dire, c'est que la prière est quelque chose qui n'est plus prière s'il n'y a pas de gratuité. Cela signifie, si vous voulez, que autant notre prière doit être véhémente, je vais y revenir après, autant elle doit être une prière faite dans un total détachement quant à l'efficacité visible de cette prière. Or là, bien souvent, nous péchons parce que nous mettons des conditions de lieu, de temps. Il faut absolument que dans une semaine, ce soit comme ça. Même si on le dit peut-être pas aussi franchement que ça, mais quand même, souvent, nous posons des ultimatums à Dieu, nous posons des conditions, nous posons des délais, eh bien non. Déjà, à la base, c'est fichu. La prière authentique revêt quelque chose qui est de l'ordre de la pure gratuité. Pourquoi donc? Parce que, au fond, la prière, qui est si difficile à vivre, mais peut-être si facile à définir, au fond, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement parler à celui qu'on aime, écouter celui que j'aime, d'écouter parler. Mais celui que j'aime, je lui parle gratuitement, si je l'aime vraiment. Je ne commence pas à le manipuler. Même si il est vrai que des personnes qui s'aiment peuvent formellement se demander quelque chose. Oui. Mais on comprend très bien que c'est très différent d'aller trouver, quelqu'un au guichet de la gare pour demander un billet contre argent. Et puis, demander à son épouse, par exemple, de préparer une tourte au chocolat pour ce soir. C'est pas du même ordre. Bien sûr, c'est deux demandes, mais c'est pas du tout du même ordre. C'est pas du tout du même ordre. Il y a cette gratuité. Il y a un désir, en effet, qui est exprimé, mais en même temps, dans un total détachement quant à la réponse. Donc là, je crois que nous péchons souvent
par manque de détachement. Nous devrions prier et oublier tout de suite ce que nous avons demandé dans notre prière, à l'extrême. Nous devrions être dans cette attitude-là, hein, à l'extrême. Parce que ça, c'est vraiment faire confiance à Dieu. Au fond, ce qui nous est demandé d'expérimenter dans la prière, mais on comprend bien que c'est tout un chemin de conversion, il ne faut pas moins d'une vie pour vaguement y parvenir, c'est au fond le même abandon que le Christ a vécu sur la croix. Père, en tes mains, je me remets. C'est ça. C'est vraiment foncièrement la même démarche. Alors vous allez me dire, si les choses sont ainsi, ma foi, c'est pas très mobilisant. C'est pas très mobilisant. Et pourtant non, il faut tenir, comme bien souvent dans la vie chrétienne, deux extrêmes. À la fois, il faut être totalement détaché dans sa demande, et à la fois, il faut demander avec force. Et il ne faut pas demander petitement, parce que demander petitement, ça veut dire que j'estime que Dieu est petit. Or, il n'est pas petit, il est grand, il est très grand, il est infini. Il y a un passage dans le livre du Siracide que j'aime beaucoup, c'est au chapitre 7, verset 10. « Ne sois pas timide dans ta prière. » Or, souvent, nous sommes timides. Trop souvent, nous sommes timides. Il faut demander beaucoup parce que Dieu veut donner beaucoup. Donc ça, c'est certain. Je retrouvais, juste en mettant sur papier ces réflexions, un très beau texte que je veux vous lire, d'un évêque orthodoxe qui vit actuellement en Angleterre. Peut-être certains ont lu déjà quelque chose de lui. Il s'appelle Antoine Bloom. Il parle de la prière de demande et d'une façon qui, je trouve, est très intéressante. Beaucoup de nos prières, parce qu'il y a quand même, par rapport à ce type de prière, il y a quand même un certain sentiment de culpabilité. Hein. On veut avoir une prière tellement gratuite qu'on ne veut rien demander. Mais vous allez voir ce qu'il dit. Beaucoup de nos prières sont des prières de demande. Et nombre de gens semblent penser que la demande est le niveau inférieur de la prière. Puis vient ensuite, plus noble, l'action de grâce et la louange. Mais en fait, ce sont l'action de grâce et la louange qui sont l'expression d'une relation inférieure. Quand on n'est qu'à demi-croyant comme nous, il est plus facile de chanter des hymnes de louange ou de remercier Dieu que de lui faire suffisamment confiance pour demander quelque chose avec foi. La demande. Même des gens qui ne croient qu'à moitié en Dieu peuvent se tourner vers lui pour le remercier quand il leur arrive quelque chose d'heureux. On voit des païens le faire. Hein. Même s'ils ne parlent peut-être pas de Dieu formellement, en tout cas, bon, une force supérieure, bref, ils sont capables de ce mouvement d'action de grâce. L'évêque continue. Il est des moments d'exaltation où tous se sentent portés à chanter vers Dieu. Hein, les païens aussi le font. Mais il est beaucoup plus difficile d'avoir une foi assez totale pour demander de tout son cœur et de tout son esprit avec une pleine confiance. Nul ne doit considérer la demande avec mépris, car la capacité de faire des prières de demande est le test de la réalité de notre foi. Je trouve que c'est assez bien vu. Voilà, donc à la fois, et j'en conviens, ce n'est pas facile, à la fois demander beaucoup, et à la fois être totalement détaché quant à ce qui va advenir. C'est pour moi le secret de la lutte contre cette tentation d'abandon. La deuxième tentation que j'évoque, c'est celle de la désespérance. Alors ça peut paraître étonnant, mais vous allez voir que je crois que les choses sont assez claires. La désespérance, si nous y réfléchissons un petit instant, naît toujours d'une chose qui s'appelle l'oubli. C'est pourquoi je serais enclin à dire que le contraire de la désespérance, c'est pas l'espérance, mais c'est la mémoire. Je vais m'expliquer. Je signale en passant que le même Saint Jean, toujours dans le même discours, c'est-à-dire le Christ en fait, nous dit incidemment, et peut-être que nous n'avons pas suffisamment fait attention à cette formule, que c'est l'Esprit Saint qui nous fera nous souvenir. Voilà encore qu'on rencontre l'Esprit Saint comme celui qui nous fait nous souvenir. Parce qu'en effet, le souvenir débouche, si nous sommes honnêtes, sur une chose qui s'appelle l'action de grâce. C'est frappant de voir, et les pères de l'Église l'ont déjà remarqué très tôt, comme il y a une sorte de correspondance entre ce que le peuple élu a vécu et ce que chaque personne est appelée à vivre. Le peuple élu, à partir de cet événement qu'on vient de fêter, de rappeler dans la vigile pascale, cet événement de la libération qu'a été la sortie d'Égypte, le peuple élu, le peuple de Yahvé, le peuple juif, n'a cessé de revenir à cet événement. Il n'a cessé de faire mémoire de cet événement. Vous savez qu'il y avait une mémoire liturgique chaque année. C'était la Pâque, hein, que le Christ a transformée, nous savons comment. Et à ce moment-là, la Bible nous dit, alors le plus jeune se lèvera et demandera au plus ancien, mais explique-nous pourquoi nous fêtons les choses ainsi ce soir. Et alors le plus ancien devait raconter tout ce qui s'était passé, hein, la sortie d'Égypte. Et le peuple hébreu n'a cessé de relire cette histoire pour sans cesse y découvrir une présence qui était celle de Dieu et un émerveillement devant cette fidélité de Dieu. J'ai été très heureux, vraiment très heureux, dans l'un des tout derniers textes que Jean-Paul II nous a adressé, qui est la lettre au prêtre pour le Jeudi Saint. Trouvez ça facilement sur Internet. Au numéro 5, je crois que c'est la première fois qu'il a utilisé, et donc la seule fois par le fait même, cette expression dans un écrit. Je cite, et alors il en parle à propos de l'Eucharistie, mais nous pouvons en parler à propos de toute notre vie. Il parle de ce qui est une invitation à développer une spiritualité de la mémoire. Développer, et c'est un travail que nous allons chacun à entreprendre, une spiritualité de la mémoire. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'entrer dans une nostalgie stérile et inutile. Il s'agit à travers les événements de ma propre vie, comme le peuple hébreu s'y est employé, à découvrir les lieux, et ils sont légions, ils sont en réalité continuels, mais enfin c'est vrai qu'il y a des moments privilégiés, à découvrir les lieux où Dieu est intervenu dans ma vie. C'est ce que volontiers j'appelle, dans une vie humaine, dans une vie de baptisé, les grâces sources. Tous, nous avons été comblés de ces grâces sources. Pourquoi grâces sources? Parce qu'elles sont comme des sources auxquelles nous pouvons revenir. La source, elle est toujours la même, mais l'eau qui coule, c'est toujours une eau nouvelle. Je me souviens une fois, nous avons accueilli un pasteur dans la salle du chapitre. Je n'ai pas retenu grand-chose de ce qu'il avait dit, mais j'ai retenu une chose. Faire mémoire d'une grâce reçue, c'est une nouvelle grâce. C'est profondément vrai. Faire mémoire d'une grâce reçue, c'est une nouvelle grâce. Il est terrible de voir comme nous avons tant de mal à unifier la vision même que nous posons sur notre propre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons cette tendance vraiment désastreuse à regarder les grâces que nous avons reçues comme des moments ponctuels de notre vie. Comme si il y avait un moment M et au moment M1, il n'y a plus rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. Une grâce reçue, je peux toujours y revenir et toujours elle va m'apporter quelque chose de nouveau. Ça, c'est le travail de la mémoire du cœur dont nous parle Jean-Paul II. Cette spiritualité de la mémoire. Alors peut-être que c'est le fait de l'âge, j'en parlais tout à l'heure pendant le souper, mais c'est vrai que quand on est jeune, ce dont je parle paraît un peu étrange. Mais vous verrez que les années venant, et je crois que les plus anciens ou les plus anciennes ne me contrediront pas, il est vrai qu'il y a vraiment un travail de mémoire extrêmement fécond qui peut être entrepris. et qui est un enrichissement continuel.
Merci au Père Henri-Marie. Un petit problème technique n'a pas permis d'enregistrer la fin de cette conférence. Je vous propose un petit résumé. Donc, le Père Henri-Marie nous parlait de la mémoire, et la mémoire est un moyen rêvé pour unifier toute notre vie. Tout cela est traversé par le fil rouge du plan de Dieu. On peut voir, en faisant mémoire de notre vie, combien le Seigneur a mené tous les événements et combien tout peut prendre cohérence. Ensuite, nous voyons qu'il faut prier sans cesse, et dans Éphésiens 6, 18, vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Donc il insiste sur cette action de grâce permanente, sur le fait de prier sans cesse. Et chez l'homme, donc, cette prière sans cesse va se faire aussi par la mémoire. On va faire mémoire des merveilles de Dieu, et à cette mémoire de l'homme, Dieu répond par sa fidélité de toujours à toujours. Et c'est aussi l'attitude de Marie qui repassait tous ces événements dans son cœur, comme on dit. Cette mémoire de Marie qui reprenait tous les événements, qui relisait tout dans le silence de son cœur et en action de grâce. Et toute l'Église fait cette mémoire dans la liturgie avec le chant du Benedictus, où l'Église se souvient des miséricordes de Dieu, et à l'autre extrémité de la journée, dans la liturgie, nous chantons le Magnificat, et là aussi avec Marie, nous nous souvenons de la miséricorde de Dieu. Le Père Henri-Marie nous présente Marie ensuite comme étant si étroitement liée à l'Esprit-Saint qu'elle nous offre dans une personne humaine de comprendre un peu ce qu'est l'Esprit-Saint dans une personne divine. Et il reprend Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui dit « Quand l'Esprit-Saint trouve Marie dans une âme, il y vole ». Et en conclusion, le Père Henri-Marie nous invite vraiment à nous mettre à l'école de Marie pour entrer dans ce courant de prière avec l'Esprit-Saint. Mettons-nous à l'école de Marie qui nous apprendra à laisser l'Esprit-Saint venir prier en nous. Il y a eu ensuite un temps de questions-réponses, une question qui invitait à faire le point sur trois notions: repentir, remords et culpabilité. En fait, la culpabilité, c'est le mouvement le plus superficiel, c'est l'aveu d'une faute. Même un païen peut rentrer dans cette dimension de la culpabilité et regretter une faute. Le remords, c'est le deuxième niveau, mais c'est un niveau qui est a priori rempli d'orgueil. Je suis déçu de moi-même. C'est pas de Dieu ou pas devant Dieu que je suis déçu. C'est de moi que je suis déçu. J'ai honte. Et le remords est assez pervers parce que il est une vision assez lucide de la faute. Ce qui manque dans le remords, c'est que ça passe de moi à moi. Et c'est ce qui s'est produit pour Judas, justement. Son plus grand péché est d'avoir limité l'action de la miséricorde. Il en est resté au remords qui n'est que de l'orgueil. Et puis la dimension du repentir, alors c'est là où Saint-Pierre, dans son reniement, se distingue de Judas. La faute de Pierre d'avoir renié trois fois est peut-être aussi grave que la faute de Judas qui a livré Jésus. Mais la grande différence, c'est que Judas est resté au niveau du remords et donc de l'orgueil et du regard sur soi, alors que Pierre est rentré dans cette dimension de repentir où il a eu foi dans le pardon du Christ. Il a cru que Jésus pouvait le tirer de l'abîme dans lequel il s'était plongé. Voilà. Une autre question ensuite demande comment on fait pour s'adresser aux personnes divines. En tout cas, relève que rarement l'Esprit-Saint en personne est mentionné. Et le Père répond que ce n'est pas immédiat de s'adresser à chacune des personnes. Quand je dis Dieu, soit c'est à toute la Trinité que je m'adresse, soit c'est à Dieu Père. Dans le Nouveau Testament, quand on dit Dieu, c'est plus précisément au Père que ça s'adresse. Et une relation particulière, spécifique avec chacune des personnes est possible. Le Père, dans sa dimension de paternité, le Fils, le Christ, plus dans sa dimension de sauveur, on va s'adresser à lui comme à un sauveur, on va aussi s'adresser à lui comme à un frère. Il est vrai que pour s'adresser personnellement à l'Esprit Saint, c'est moins immédiat, moins évident, puisque l'Esprit Saint est aussi la relation d'amour qui unit le Père au Fils et qui nous entraîne dans cette union d'amour. Et donc, il est moins immédiat, effectivement, de s'adresser à l'Esprit Saint. Et on a vu que, au cours de la conférence, justement, que la liturgie, moins immédiatement s'adressait à l'Esprit Saint.